l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'aime, la quotidienne de Radio Évasion, où vous nous écoutez en FM sur le 100.4 et aussi sur Internet, sur radioévasion.net, et ce, pour l'éternité. Avec notre partenaire Biodivertisson, une entreprise d'accompagnement en gestion d'espaces naturels et en sensibilisation à la préservation de la biodiversité, nous avons dressé le portrait de la structure et nous avons aussi expliqué comment sont préparés des ateliers de sciences participatives, des sessions de sensibilisation et de prévention basées sur des protocoles scientifiques. Mais comment cela prend-il forme? Quel protocole se cache derrière ces ateliers? Pour tout nous dire, je reçois beaucoup de monde aujourd'hui. Alors Julie Rionnier, bonjour, vous êtes là bien évidemment, vous êtes éducatrice à l'environnement et gérante de l'entreprise Biodivertisson.
Oui, bonjour Davy.
Alors on a aussi d'autres partenaires de Radio Évasion qui sont aussi avec nous. Nous recevons Nora Abbott, vous êtes chargée de communication à EPAGA, l'établissement public d'aménagement et de gestion du bassin de l'Aulne. Bonjour Nora.
Bonjour Davy.
Et on a aussi Mélanie Raymonet, vous êtes biogéochimiste au LEMAR, c'est très sérieux, le laboratoire des sciences de l'environnement marin de l'IUEM, l'Institut universitaire européen de la mer de Brest, rien que ça. Bonjour Mélanie.
Oui, bonjour.
Et alors, en plus, par téléphone, il y a Anne Royer et vous êtes en charge de l'observation participative de l'IUEM, c'est bien ça Anne?
Tout à fait, bonjour.
Alors déjà, un grand merci à vous toutes d'être là avec nous en direct. Et aussi d'avoir participé à l'élaboration de cette émission. On va parler science et aussi un petit peu d'écologie. On va donc commencer par le tout début de cette aventure. Donc vous êtes venus à travailler ensemble sur un projet de ramassage de déchets. Comment vous vous êtes rencontrés, Mélanie? Vous vous connaissiez avant ce projet?
En fait, on s'est rencontrés dans le cadre du programme Écoflux Bretagne.
C'est quoi Écoflux Bretagne?
Donc Écoflux Bretagne, en fait, c'est un... l'objectif de ce programme, c'est de mettre en place un suivi participatif, un observatoire à l'échelle de la Bretagne, pour regarder en fait l'impact des transitions sociales et environnementales sur la qualité de l'eau et la biodiversité le long du continuum terre-mer.
Donc, ça veut dire quoi exactement une transition sociale et environnementale?
En fait, c'est toutes les modifications en fait qui vont avoir lieu sur les territoires. À la fois, par exemple, on peut citer les pratiques agricoles, la façon dont on va gérer la ressource en eau, mais ça peut toucher aussi l'énergie, l'habitation. Enfin, c'est très très large en fait.
Et tout ça dans un contexte environnemental changeant cause.
Et donc, bien sûr, changement climatique. Hein, on le ressent de plus en plus. Et en fait, le but, c'est d'arriver à trouver des façons de s'adapter en fait et de faire une transition du territoire sous climat changement.
D'accord, donc trois objectifs pour ce protocole. C'est un protocole, hein, c'est ça, ou ça...
En fait, c'est un programme à l'échelle de la région en fait pour essayer de... je peux vous détailler un petit peu. En fait, on essaie à la fois, sur un point de vue scientifique, grâce à cet observatoire, essayer de mieux comprendre en fait les impacts de changement de pratique et du changement climatique en fait sur la ressource en eau et la biodiversité, mais il y a aussi un objectif pédagogique qui est vraiment d'impliquer en fait et de former les lycéens, les citoyens pour participer à la collecte d'informations, que ce soit pas uniquement les scientifiques en fait, et d'aider à la prise de conscience. Il y a aussi un objectif territorial qui est de participer en fait à la transition des territoires et d'aider en fait à la prise de décision en fait.
Alors pour tout ce qui est objectif qui concerne tout ce qui est pédagogique, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement des lycéens?
Alors on a choisi de travailler avec des lycéens et plus spécifiquement des lycéens de lycée agricole parce qu'en fait on travaille autour de la ressource en eau et que ce sont des futurs acteurs en fait autour de cette ressource en eau, ils vont avoir à travailler et ils vont pouvoir, par leur pratique, avoir des impacts sur cette ressource. Et donc, on trouve intéressant en fait, de travailler spécifiquement avec eux pour les sensibiliser en fait, au parcours de l'eau dans les bassins versants et jusqu'à la côte.
Parce que les agriculteurs, en général, c'est eux qui ont le plus d'impact justement sur tout ce qui est transition sociale, transition environnementale, et alors, qui en plus de ça jouent avec le changement du climat.
En fait, c'est pas eux, on les pointe pas du tout.
Non,
du
non,
doigt.
Sans les pointer du doigt, c'est juste que.
Et ils ont un impact.
J'imagine qu'ils ont un impact plus fort peut-être que moi, quoi.
Bah non, on a tous un impact.
On a tous un impact.
On a tous un impact, mais on pense que des solutions peuvent émerger en ce qui concerne l'agriculture, et ça nous semble important en fait. Et aussi l'impact, l'objectif, c'est pas uniquement de travailler avec les lycéens, mais c'est de les mettre en contact en fait avec tous les autres acteurs du territoire qui ont un lien avec la ressource en eau. Donc c'est pas juste de travailler avec eux, mais c'est de faire un lien avec tous les acteurs du territoire.
Qui gardent ce lien en plus quand ils feront leurs actes, quand ils seront plus grands. Ouais. On va dire ça comme ça. Et pourquoi vous avez choisi les PAGA et Biodivertissons ?
Alors en fait, les PAGA, on travaille déjà avec eux, mais c'est justement eux, ils travaillent autour de la gestion de la ressource en eau. Et Biodivertissons, en fait, Julie, qui avait déjà mis en place ces protocoles-là. Donc, on s'est dit, on va essayer de créer quelque chose, une expérimentation autour des pollutions visibles. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pollutions qui sont invisibles, qui sont contenues dans l'eau, mais on ne les voit pas.
Et
on s'est dit, j'introduis. et donc, on s'est dit, on va travailler sur les pollutions visibles. Et c'est là que c'était super intéressant de bosser avec Julie. Et elle reparlera.
Il y avait d'autres thématiques que les déchets visibles ou pas ? Et puis les déchets invisibles, mais il y avait d'autres choses ?
En fait, dans le cadre du programme Écoflux Bretagne, on va s'intéresser à tout type de pollution. Et là, c'était juste un point d'entrée, en fait.
D'accord. Alors, les déchets invisibles, du coup, ça existe aussi ?
Oui.
Ils sont pleins, ils sont très nombreux. Et pourquoi vous avez choisi l'Aulne ?
Alors, du coup, l'Aulne... En fait...
Peut-être plus Nora ?
Oui, je peux répondre par rapport à ça. En fait, on a choisi l'Aulne parce que déjà, c'est un territoire central sur le Finistère. Et comme on travaille avec des lycées, notamment de Fouesnant, de Morlaix, ça fait un peu le point central pour faire des ramassages. Ensuite, l'Aulne, c'est le troisième bassin versant le plus grand de Bretagne. Donc, il va déverser une grande partie de son eau dans la rade de Brest. Donc, en fait, tout ce qui se passe sur le bassin versant va se retrouver dans la rade de Brest, donc ça soit les déchets visibles et invisibles. Donc, on a un territoire de 2000 km² sur... un petit peu aussi sur les Côtes d'Armor. Et du coup, on a choisi de travailler à Trégarvan notamment. Donc le site de ramassage, c'est à Trégarvan parce que ça se situe à l'estuaire de l'Aulne. Donc c'est vraiment un site qui permet de voir vraiment toutes les pollutions qui viennent du bassin versant et qui vont dans la rade de Brest.
Il n'y a eu qu'un seul site ?
Oui, qu'un seul site à Trégarvan. Et on a choisi aussi ce site-là parce que c'est un site facile d'accès pour les élèves.
Oui.
Et aussi, on a eu un très bon retour en fait, de la mairie qui nous a accompagnés et qui nous a vraiment soutenus dans le projet. Donc, c'était vraiment une dynamique globale et très positive.
Ah, d'accord, moi, je pensais que vous aviez choisi, ciblé plusieurs endroits le long du cours d'eau parce qu'il y avait justement des méandres, c'est ça ?
Oui,
hein,
oui.
Là où c'est très, très, très sinueux, peut-être des cours plus en pente ou peut-être plus long. Non, c'était
que à Trégarvan, parce que notamment l'estuaire de l'Aulne, en fait, c'est très peu accessible. Il y a beaucoup de roselières, de vasières, donc c'est un territoire assez difficile d'accès.
Ouais.
Et il n'y a que des cales de bateaux à certains endroits qui peuvent permettre d'accéder. Et notamment, Trégarvan, c'était vraiment l'endroit parfait pour ça, parce qu'on pouvait accueillir les enfants et vraiment faire un travail complet avec la mairie aussi.
Il n'y avait aucune contrainte ?
Non, il n'y avait pas de contrainte. On devait par contre bien jouer avec les marées,
oui.
Parce qu'on a fait des ramassages où c'était des marées hautes, donc on devait vraiment attendre que la mer descende un petit peu pour permettre de faire un ramassage quand même sur la plage. Quoi.
Vous connaissez la hauteur, le delta qu'il peut y avoir justement à Trégarvan ?
Ah non, ça je sais
non.
pas.
D'accord. Alors, et quels sont les intérêts de ces ramassages pour le territoire du bassin versant ?
Ça permet notamment d'avoir une vision en fait, de ce qui se passe sur le territoire. On a fait des actions déjà un petit peu en amont sur les déchets, mais c'est vrai que il faut quand même du temps d'animation pour travailler sur les déchets, notamment les déchets plastiques. Et c'est une chose qu'on n'avait pas beaucoup le temps de faire. Donc avec le programme Écoflux, ça nous permet d'avoir vraiment des premières données sur les types de déchets qui se retrouvent, en fait, qui proviennent du bassin versant de l'Aulne. Et du coup, de les faire participer aussi des élèves du territoire.
On va faire parler un petit peu Anne, parce qu'on n'entend pas beaucoup. Alors, ces ramassages ne sont pas faits n'importe comment. Ils sont organisés selon le protocole OSPAR. Je me disais comme ça, est-ce qu'il y a un rapport avec la convention Oslo-Paris de 1998 ?
Alors là, je ne sais pas, j'avoue. En fait, pour nous, ce qui était important, c'est que ce soit que les lycéens qui participent, notamment dans le cadre du programme Écoflux Bretagne, participent à un protocole scientifique, en fait, puisque pour leur montrer voilà, que la rigueur scientifique avec tout ce que ça implique. Et donc, pour nous, on a choisi ce protocole qui est un protocole effectivement qui existe à l'échelle européenne. Alors après, je ne sais pas s'il y a un lien avec la convention dont vous parlez. Et donc, ça consiste pour nous à faire en fait des ramassages sur des transects de 100 mètres de long. Et donc, ceci 4 fois par an, donc aux différentes saisons de l'année, donc en février, juin, septembre, octobre et novembre, décembre. Et donc, nous, dans le cadre de ces ramassages, on s'est rendu compte qu'il y avait des zones qui étaient assez différentes, et notamment en parlant avec l'association de pêcheurs de Trégarvan. Donc, on a défini finalement quatre zones de ramassage à Trégarvan. Qui sont assez différentes et pour lesquelles on a été aiguillé par cette personne de l'association de pêcheurs. Voilà, pour ce qui est du protocole. Ensuite, toutes les données qui sont récupérées lors de ces ramassages sont collectées, saisies sur une base de données nous, on la saisit via l'interface zéro déchet sauvage, mais voilà, c'est saisi dans une base de données et ça peut être réutilisé ensuite par des scientifiques du monde entier pour exploiter ces données sur Trégarvan.
D'accord, donc c'est un vrai protocole scientifique, c'est exactement comme ça que pourrait procéder n'importe quel scientifique de terrain.
Oui, tout à fait, tout à fait. On avait des fiches en fait bien définies avec voilà des typologies de matériaux, de types de déchets, d'utilisation selon l'utilisation en fait, et on saisissait ces données pour chaque déchet prélevé, on saisissait sur ces fiches, et ensuite ces fiches étaient saisies dans la base de données sur la plateforme Zéro Déchet Sauvage.
D'accord. Je vais revenir un tout petit peu sur le transect. C'est comme ça qu'on dit un transect.
Oui.
Ça ressemble à quoi physiquement un transect quand on...
En fait, c'est une zone de plage ou de berge qui fait donc 100 mètres de long. Donc, nous, on a été sur le terrain avec des décamètres. On a mesuré nos transects de 100 mètres. On les définissait bien visuellement avec des bâtons ou un repère bien visuel. Et les élèves se répartissaient en ligne. Donc espacé de 2 à 3 mètres chaque élève, et tout le monde avançait en même temps le long de ce transect et ramassait tous les déchets qui étaient visibles lors de l'avancée sur ces 100 mètres. Et donc on ne ramassait que les déchets de cette zone-là. Tous les déchets ramassés en dehors de cette zone étaient comptabilisés, parce qu'on a quand même ramassé des déchets en dehors, mais on les a comptabilisés sur une autre... d'une autre manière, en fait.
D'accord.
Voilà.
Et donc, ça fait exactement 100 mètres. Donc, c'est balisé par des piquets. Ces piquets restent là toute l'année ou... Comment vous faites?
En fait, on a pris des points GPS. Et donc, on ne pouvait pas garder les piquets toute l'année parce qu'avec les marées, ils auraient fini par disparaître. Donc, on a pris les points GPS de chaque zone, début, fin. Et on a, à chaque fois qu'on revenait sur le terrain, on remettait les piquets au point GPS qu'on avait déjà défini la première fois.
Et donc, vous disiez, je crois, seulement 4 fois par an, c'est pas beaucoup pourtant, 4 fois par an, on ne pourrait pas en faire plus?
Alors, on pourrait en faire plus, mais le protocole, ce protocole-là, le protocole OSPAR, définit 4 périodes dans l'année, donc qui sont printemps, été, automne et hiver. Donc, on respecte, puisque en fonction de la saison, des tempêtes, etc., on va avoir des apports plus ou moins de déchets, donc on a respecté vraiment les critères de ce protocole.
Oula, on ne vous entend plus beaucoup. Donc, vous avez respecté les critères de ce protocole scientifique, je répète. Voilà, donc, ces données qui sont récoltées puis qui sont mises dans une application, si j'ai bien compris, qui s'appelle, Julie ?
Zéro déchet sauvage.
Voilà, c'est la plateforme Zéro déchet sauvage. Alors, mais elles arrivent où, après, ces données ?
En fait, les données, donc il y a des protocoles particuliers avec les fiches, elles sont envoyées directement à l'association Mère Terre, qui est située à Marseille, et qui, elle, en fait, a développé cet outil-là avec le Muséum national d'histoire naturelle, notamment. Et donc, toutes ces données-là, en fait, elles sont envoyées au muséum, elles sont compilées, parce qu'on n'est pas du tout les seuls à utiliser cet outil-là. Et ça permet, en fait, de faire une grande cartographie des acteurs, des actions menées, des déchets, des volumes, des kilos et des typologies et des marques aussi des déchets trouvés sur là, notamment la Grève ou tous les autres endroits en France où c'est fait.
Il y a d'autres outils que cette application-là ou qu'une application même ?
Non, en fait, il y a plein d'outils. Par l'intermédiaire de Surfrider, il y a le protocole Osparito. On a utilisé, Anne a dit justement que tous les déchets en dehors de ces zones-là, donc on les a bien mis de côté. Et on a utilisé l'application Hobbs en mer avec le programme RIEM Hobbs, qui est développé par l'association RIEM, donc le réseau initiative des éco-explorateurs de la mer, qui est dans le Morbihan, avec laquelle je travaille. Et en fait, c'est juste une manière différente de caractériser les déchets au fur et à mesure des balades. Soit on a le temps et la structure et l'organisation pour mettre en place des journées comme celle-ci, cadrées comme ça. Soit au fur et à mesure de nos promenades sur le littoral ou même de nos sorties en mer, c'est des observations que l'on peut également noter. Mais c'est en fait, Hobbs en mer, c'est héberger. C'est héberge des programmes comme RIEM Hobbs, les Glénans en font aussi. Il y a plein d'organismes qui mettent en place ces protocoles-là. Et ça permet juste d'héberger tous ces programmes-là et de remonter au niveau des organismes scientifiques, l'Office français de la biodiversité, le Muséum national d'histoire naturelle, l'IFREMER, etc., etc., IEM. Voilà, il y a plein d'autres structures derrière. C'est juste un outil parmi d'autres.
Donc on pourrait faire venir tous ces gens-là dans l'EM pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils en font ?
Avec plaisir.
De ces fichues données. D'accord, donc on en a déjà parlé justement, Julie, sur ce plateau. Comment ça se passe rapidement, une journée de ramassage ?
Bah là, en l'occurrence, donc sur le projet que l'on a monté tout ensemble, donc il y avait des élèves et des lycées bien identifiés en amont. Nous, en amont, sur le terrain, on arrive, on balise justement grâce au point GPS et au piquet, etc. On fait aussi une reconnaissance parce que, comme le disait Anne, on ne vient pas au même moment de l'année. Au mois de novembre, par exemple, c'est un peu plus compliqué. La vase est un peu plus molle, donc il y a toute cette partie reconnaissance. Ensuite, on accueille les lycéens, on leur explique dans quel cadre ils vont faire cette journée-là, pourquoi ils sont là. Et ensuite, on fait la partie ramassage le matin. Donc, on leur explique ce qu'ils doivent ramasser, comment on s'organise, pourquoi bien séparer les zones. On déjeune. Et l'après-midi est vraiment dédié au tri et à la caractérisation des déchets. La caractérisation en fait, des déchets, c'est en gros, par grand matériau, vous avez du plastique. Dans le plastique, il y a des mégots, il y a des morceaux de filets de pêche, il y a des emballages alimentaires ou non alimentaires. Le but, c'est la caractérisation, c'est de relier par rapport aux usages. Et voilà. Et donc, ensuite, on fait un bilan de la journée et on compare quand on a fait des ramassages avant. On compare avec les résultats qu'on a trouvés avant. Et voilà. Et ensuite, Anne fait la saisie sur la plateforme.
D'accord. Alors, Mélanie, donc en gros, on enfile ses bottes, ses gants, mais on ramasse quoi ? Est-ce qu'on ramasse uniquement ce qu'on voit ? Est-ce que le protocole en termes d'objets à ramasser, de personnes par... on en a déjà expliqué même le nombre de personnes est par transsec et comment ça se passe ? Comment on définit justement le protocole, tout ça ? Les objets que vous ramassez, en fait. Vous ramassez que ce qui est visible.
On ramasse tout ce qu'on voit.
Le protocole exige qu'on ramasse absolument tout.
Tout ce qu'on voit et qui n'est pas naturellement présent en fait, sur la zone.
Comment ? Par exemple, du bois ?
Alors voilà, pour le bois, la question se posait. Et on discutait avec les lycéens. En fait, est-ce que vous êtes capable de voir si on voit que c'est une branche d'arbre qui est tombée ? Bon, on ne la ramasse pas. Par contre, si c'est un rondin de bois taillé, coupé, bien net, là, on le prenait en compte. Parce que c'était lié à un usage de l'homme, en fait.
Il y avait d'autres pièges comme ça qui pouvaient porter à confusion ?
C'était essentiellement lié au bois.
Pas de plastique qui pourrait ressembler à des algues ou des choses comme ça ?
Oui, si, on a eu ça aussi. Des algues qui pouvaient faire penser à du plastique.
Ça ressemble à quoi, du coup? Un bout de plastique qui ressemble à une algue, c'est...
Non, en fait, c'est des algues, souvent les algues vertes ou brunes, qui sont très fines et qui peuvent faire penser à un déchet plastique. Mais quand on la prend dans les mains, on arrive à faire la différence.
D'accord. Et Nora, entre chaque passage... Vous avez fait tous les passages, toutes les interventions.
Moi, j'étais aux quatre massages.
Oui. Aux quatre, ouais. Oui, oui. Et alors, à chaque fois, c'était différent. C'est toujours la même chose au niveau quantitatif, tout ça.
Alors, au niveau quantitatif, on en avait un petit peu plus au début sur les premiers ramassages parce qu'on a ramassé du coup les plus gros objets, par exemple le bois. Il y avait des morceaux de métal aussi. Donc ça, c'est des objets qui étaient là depuis longtemps. Donc les élèves les ont ramassés dès le début. Et après, on avait un petit peu moins de volume et de poids. Mais on avait quand même, c'était pas une grosse différence, hein, je crois. Hein, c'était quand même, on était autour de 50 kilos par ramassage, je pense.
Et à peu près ça pour les quatre sites
en tout. Ouais, c'est ça, en cumulé, quoi. Et après, il y avait des différences aussi en fonction des zones, en fait. Bon, ça, Mélanie, peut-être que tu en parleras un petit peu après. Mais après, sur la typologie des déchets, on peut peut-être en parler un petit peu. C'est qu'il y avait 70% des déchets, c'était des déchets plastiques. Donc, c'était majoritairement des déchets alimentaires, donc des emballages de sucreries, par exemple, des chips, des bâtons de sucette, des gobelets, des bouteilles, des bouchons. Et il y avait beaucoup de vieux emballages. Ça nous a vraiment étonnés. Les élèves aussi étaient très étonnés par rapport à ça. C'était vraiment des vieux emballages avec les vieux logos, les vieux design. Et on a réussi aussi à identifier quelques marques. Il y avait par exemple Lutti, BN, Nestlé, Coca-Cola, Bic ou encore Heineken. Donc c'était vraiment des marques qu'on pouvait identifier facilement au visu, quoi.
Ça sert à quoi de les identifier ?
Julie.
En fait, ça permet de remonter aux structures qui les fabriquent. Et plus que du fait de pointer du doigt, c'est aussi permettre d'avoir un état des lieux complet. Le but, c'est à terme, c'est de savoir si sur le territoire, les structures de traitement, elles sont adaptées. Et si elles ne sont pas adaptées, comment on peut réduire certaines typologies de déchets. Et le fait de reconnaître les marques, on reconnaît ceux qui les produisent. Et donc, ça permet, d'ouvrir un dialogue avec eux.
D'accord. Et du coup, c'est quoi l'impact de ce matériau sur l'environnement, Mélanie, par exemple?
En fait, tous ces déchets, en particulier le plastique, vont avoir un impact. D'une part, en étant piégés, on l'a vu, hein, certains des plastiques étaient complètement piégés dans les sédiments, donc dans la vase. En fait, à force, ils s'accumulent et ils restent coincés dedans.
Ils peuvent rester jusqu'à quelle profondeur?
Ça s'accumule au fur et à mesure. Donc, en fait, la profondeur, c'est à peu près depuis qu'on utilise des plastiques.
Wow.
Donc, ça dépend des endroits, mais c'est quand même sur la surface. Hein, ça ne va pas non plus très profond, parce que très profond, c'est des sédiments qui sont très vieux. Mais du coup, la question, j'ai perdu.
Non, l'impact du plastique. L'impact. Donc, du coup...
Et donc, soit c'est enfermé dans les sédiments, soit ça peut être ingéré par des animaux, par des oiseaux. Enfin, il y a l'exemple des tortues marines qui avalent des sachets plastiques qu'elles confondent avec des méduses. Et après, donc ça, c'est les gros déchets plastiques. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, quand ils sont brassés dans l'eau et quand le temps passe, en fait, ils se dégradent. Et en se dégradant, ils commencent par se fragmenter en plus petits morceaux, de plus en plus petits, jusqu'à devenir invisibles à l'œil nu. Et au final, c'est comme ça qu'on le retrouve partout, en fait. Et
on le retrouve tellement partout qu'il existe une sorte de plastique qu'on appelle les nanoplastiques. Et c'est ceux-là qui font un petit peu plus peur, surtout en ce moment, parce qu'on en a entendu parler. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ?
On ne sait pas encore trop quel impact ça a sur la santé, mais clairement, potentiellement...
Où est-ce qu'on a retrouvé ces nanoplastiques ?
Un peu partout, en fait, et notamment, il y a une étude qui a montré qu'on ingérait une carte bleue par semaine.
Donc, c'est pas de l'intox.
C'est énorme. C'est l'évaluation qui a été faite. Et ce qui est sûr, c'est qu'on en ingère, oui.
Et c'est pas été retrouvé dans l'estomac, ça a été retrouvé dans le sang.
Oui.
Si j'ai bien compris. Des prélèvements ont été faits dans le sang. Donc, c'est assez terrible. Et comment on en arrive, on ne peut pas les piéger, les nanoplastiques, c'est pas possible. Autant on peut piéger les macro-plastiques.
Ce qu'on peut faire maintenant, c'est réduire et diminuer notre production et notre consommation de plastique. C'est ce qu'on peut faire. Après, le plastique qui est déjà diffus dans l'environnement, on a peu de chances de pouvoir le...
Et alors, du coup, un mot très rapide là-dessus. Est-ce qu'on peut recycler à l'infini du plastique ?
Alors, on ne peut pas le recycler à l'infini. Il y a l'exemple des bouteilles plastiques qui peuvent être recyclées 3 fois.
Oui, c'est ça. Et il faut réingérer, en fait, de toute façon, du plastique neuf. Ouais. Ah. On ne peut pas, en fait, prendre une bouteille et refaire une bouteille avec. Il faut obligatoirement réinjecter du plastique neuf, en fait, dans le système de recyclage.
Donc, pour l'instant, on n'en est qu'au recyclage. Bon, eh bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup parce que l'émission, maintenant, elle est terminée. Merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir participé donc, à cet entretien et aussi pour votre collaboration à son écriture. Vous pourrez trouver cette émission en podcast sur le site de Radio Évasion à radioévasion.net.